Cléa Salamé, votre invitée ce matin, est candidat à la candidature pour les élections municipales à Paris.
Bonjour à vous Benjamin Griveaux.
Bonjour Léa
Merci
Salamé.
Merci d'être avec nous ce matin. Vos adversaires à La République En Marche disent que les jeux sont faits, que les dés sont pipés et que vous serez le candidat du parti au municipal. Vos partisans, Benjamin Griveaux, en plein excès de confiance, vont encore plus loin et disent carrément que l'élection municipale elle-même est déjà pliée. Est-ce qu'ils vous appellent déjà Monsieur le Maire ?
Tous ces pronostiqueurs, je les invite à avoir beaucoup de prudence. Et d'ailleurs, on l'a vu, vous savez, les sondages encore récemment aux dernières élections européennes ont montré qu'il y avait des surprises.
Donc, ils vous appellent pas déjà, monsieur le maire.
C'est dans 9 mois les élections municipales. C'est dans 9 mois. Dans ces 9 mois, on a un long travail à engager qu'on a commencé depuis nous près de 18 mois, La République En Marche, de manière collective. On a fait un diagnostic, c'est la manière dont on fonctionne. On a fait travailler nos adhérents qui ont consulté des experts, des spécialistes. Et à Paris, on a une chance incroyable, c'est qu'on a une ressource naturelle et un gisement d'intelligence partout. Et on a fait ça avec la société civile. Ça fait depuis 18 mois qu'on travaille. Il y a cette commission d'investiture qui va se tenir le 9 juillet, devant laquelle nous allons... Six candidats présenter le projet, notre stratégie, ce en quoi on croit et la manière dont on souhaite faire campagne. Et ensuite, elle va décider. Et je vais vous dire, ça a plutôt bien fonctionné, ces commissions d'investiture. Nous sommes 4 députés à être candidats à cette investiture.
Mais pourquoi ils ne sont pas contents ?
Nous avons tous les 4 été investis par une commission d'investiture pour être députés. Elle a permis, cette commission d'investiture, d'avoir un Parlement très renouvelé, féminisé, rajeuni, diversifié.
Benjamin
Donc moi,
Griveaux,
j'ai pleinement confiance dans
vos
les règles qu'on a collectivement établies.
Pourquoi tant de tensions ? Pourquoi vos adversaires contestent ce mode de dédésignation ? Certains demandent une primaire, d'autres disent que c'est le retour du vieux monde en politique. On pensait que c'était horizontal, participatif, le macronisme. C'était ça le nouveau monde et finalement, c'est l'appareil qui va décider, comme
Mais
partout ailleurs.
Non, c'est nous, on a choisi de faire le débat sur le fond et pas sur les personnes. C'est ça le macronisme, depuis le premier jour. C'est comme ça qu'on fonctionne. Et regardez, on met des idées dans le débat public depuis des mois à Paris. Cédric Villani le fait avec le talent qui est le sien et la qualité absolue sur les questions, par exemple, d'intelligence artificielle, Mounir Majobi, sur les questions numériques, Anne Breton, etc. Et donc, c'est bien d'avoir ce débat-là. On nous disait, il y a 2 ans, ce parti, il n'y a pas 2 personnes qui sont capables de siéger au Parlement ou autre. Là, on a des candidats, si j'en crois les sondages. Qui sont capables, et je ne suis pas le seul, de porter le fer, de présenter une alternative au projet politique de l'actuelle majorité.
Vous seriez à égalité avec Cédric Villani. Alors la canicule à Paris, Anne Hidalgo a pris des mesures dès dimanche, elle a décidé d'ouvrir les piscines municipales et les parcs plus longtemps, il y a des points de rafraîchissement, des kits canicule. Qu'est-ce que vous feriez de plus si vous étiez à sa place ?
Ce sont des bonnes mesures prises par la ville de Paris. Et je vais vous dire, sur ce sujet-là, il ne faut pas faire de la petite politique. Donc ce sont des bonnes mesures et il faut le dire. Il y a des mesures qui ont été aussi prises par l'État parce que ce travail se fait de manière partenariale. Et Julien Normandie, le ministre du Logement, a annoncé l'ouverture notamment de 300 places supplémentaires d'hébergement parce que vous le savez, les grandes chaleurs tuent plus ceux qui vivent dans la rue que le grand froid. Et on les oublie souvent. Et puis il y a, au-delà de ces mesures, un appel, mais je crois collectif de la classe politique, à un peu de solidarité et de proximité. Quand vous avez dans votre immeuble des personnes fragiles, personnes âgées, des personnes seules, faut vérifier que ils s'hydratent, qu'on ferme les volets de la journée, on les ouvre un peu la nuit pour aérer. C'est beaucoup de bon sens et je crois que ça doit être abordé de manière dépassionnée. Je le dis, la canicule, c'est pas une crise, c'est désormais un rendez-vous. Un rendez-vous. Et donc, dans un rendez-vous, on s'y prépare et les pouvoirs publics s'y préparent, qu'ils soient municipaux ou d'État.
Ce mardi, la justice a reconnu pour la première fois une faute de l'État dans sa politique de lutte contre la pollution de l'air après le recours d'une maman et de sa fille qui habitent à côté du périphérique et qui souffrent de problèmes respiratoires. En conséquence, Anne Hidalgo a annoncé l'installation de 150 capteurs de pollution dans les écoles et dans les crèches. Et elle envisage de déplacer certaines classes dans d'autres parties de l'école moins polluées et à terme d'interdire la circulation aux heures de dépose des enfants et de récréation. Est-ce que c'est une bonne idée ?
Écoutez-moi, il y a 2 mois et demi, j'ai fait une rencontre formidable avec le professeur Jocelyne Juste, qui est la professeure de pneumologie à l'hôpital Trousseau et notamment du service de pneumologie infantile. J'ai proposé à l'issue de cette rencontre, qui m'a beaucoup marqué, que la ville de Paris puisse faire 3 examens respiratoires à 3 moments de l'enfance. À 3 ans quand on rentre en maternelle, à 6 ans quand on rentre à l'école primaire et à 11 ans quand on rentre au collège. Parce que nous ne disposons pas aujourd'hui de ces données. Ce que m'a dit cette médecin qui signe aujourd'hui une tribune dans un grand journal
dans le monde,
avec 100 d'autres médecins, c'est que nos villes, Paris, mais nos villes, nos grandes métropoles fabriquaient des handicapés respiratoires.
Donc qu'est-ce que vous faites ? Vous m'avez pas répondu sur
donc,
ça, sur les capteurs de pollution. Est-ce que
capter,
c'est bien ? Est-ce qu'il faut interdire la circulation dans
capter,
à certains moments ?
150 capteurs, il y a 8000 classes. À Paris. 8000. Les classes, les salles de classe, pas seulement celles à côté du périph, sont celles, les endroits parmi les plus pollués de Paris. Donc moi, ce que je fais, j'ai fait une proposition il y a un peu plus de 2 mois et demi. Remplacer les 8000 systèmes de ventilation des classes parisiennes. Ça coûte pas cher, hein. C'est 60 millions d'euros sur 6 ans.
Et qu'est-ce que ça change?
C'est 10 millions d'euros.
Dans la classe de récréation.
Vous renouvelez l'air. Vous renouvelez...
Mais dans la classe de récréation. Dans la salle de classe, c'est là.
Pardon, on passe plus de temps dans la salle de classe que dans la cour de récréation. On y passe 6 à 7 heures par jour. C'est sans doute un des endroits très pollués. Et puis, il y a d'autres endroits très pollués à Paris. Le métro. Et donc, c'est notre folie. C'est-à-dire qu'on dit, prenez les transports publics, et c'est une très bonne chose, les transports en commun, c'est moins producteur de gaz à effet de serre, et c'est aussi un des endroits les plus pollués, donc il y a aussi un très grand combat à mener dans le métro. La RATP a ouvert ce chantier, c'est une bonne chose.
Supprimer le périphérique, comme le propose un autre candidat, Gaspard Ganser, c'est une bonne idée?
Mais si demain on roulait tous à l'hybride, au biogaz et à l'hydrogène, est-ce qu'on supprimerait le périphérique? La bonne question à poser, c'est pas de savoir s'il faut moins de voitures, moins de périphériques, moins de que sais-je, il faut moins de pollution. Et donc c'est le point de départ. Pourquoi? Parce que ça touche notre santé. Et le rôle du maire de Paris, c'est d'être aussi responsable de la santé de ses habitants. Est-ce que ça passe par moins de voitures? À l'évidence. Mais vous voyez bien qu'il faut prendre le problème dans l'ordre. C'est le pourquoi des choses avant le comment. Le périphérique, ça reste un moyen.
D'accord.
Qu'il faille dédier une voie à l'autopartage, oui. Qu'il faille limiter la vitesse, oui. Et franchement, à 2h du matin, qu'on puisse rouler à 70 au lieu de 50, je ne suis pas sûr que ça change fondamentalement le sujet.
Vous voulez supprimer les voitures diesel à quel terme? Anne Hidalgo dit 2024 à Paris. Vous,
moi, j'ai dit que d'ici 3 ans. Si les Parisiens me faisaient confiance, il n'y aurait plus d'abord d'autocars de touristes à diesel dans Paris.
Et
il y en a 1500 à 2000 par jour. Oui, mais les autocars de touristes, pardon Léa Salamé. D'abord ça, Rome l'a fait. La ville de Rome l'a fait. C'est une pollution visuelle, sonore, atmosphérique. Ça tue nos enfants. Eh bien, on va pouvoir, il faut les accompagner, les autocars. On ne va pas mettre les gens devant le fait accompli en moins de 6 mois. On va leur dire, vous avez 3 ans. Mais dans 3 ans, je souhaite que ça, nous puissions y avoir mis
et
un
les
terme.
Voitures?
Et les voitures, il y a un projet qui a été le plan climat adapté à Paris avec un horizon 2024. Ce qu'il faut faire, c'est accompagner la transition. Regardez la circulation différenciée. C'est-à-dire, vous avez le droit de rouler avec des critères 0, 1 et 2. Et bien, quand vous êtes de Seine-Saint-Denis, bizarrement, il y a beaucoup moins de voitures en critères 0, 1 et 2 que dans les Hauts-de-Seine. Donc, il faut aussi que la transition écologique se fasse de manière juste, socialement, et qu'elle ne discrimine pas socialement les plus fragiles d'entre nous.
Benjamin Griveaux, une question sur vous. On vous a connu pendant 2 ans porte-parole du gouvernement qui montait au front, qui multipliait les déclarations brutales, les gilets jaunes sont des factieux, Mélenchon a quitté le champ républicain. Et là, depuis que vous êtes en campagne, vous n'êtes qu'amour et bienveillance. On reçoit à 8h20 Christophe André, vous n'êtes pas à son niveau mais on n'est pas loin. Le tonton flingueur est devenu bisounours. Est-ce que vous avez une double personnalité? Est-ce que c'est un rôle de composition pour séduire les Parisiens?
Alors je vais vous dire, ceux qui jouent un rôle dans une campagne électorale, en général ça se termine très mal parce que les Parisiens, les électeurs le voient. Quand j'ai dit, moi, que certains gilets jaunes, pas tous, certains étaient des factieux, je l'assume et je le redis à votre micro. Ceux qui souhaitent renverser un gouvernement démocratique et le remplacer par un gouvernement militaire, j'appelle ça
des factieux. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que les enquêtes Cali disent que vous êtes clivant.
Ça n'est pas ce que dit la dernière enquête à laquelle vous vous référez, pour le coup. Elle dit même l'inverse. Et donc, j'entends que mes adversaires essaient de me coller une étiquette. Ce que je dis, c'est que cette campagne... elle sera aussi un moment de vérité et de sincérité. Vous pouvez pas mentir pendant une campagne. Les gens le voient. Les gens, au fond, moi, les Parisiens que je rencontre depuis 3 mois, maintenant que j'ai déposé ce costume de porte-parole, ils ne me parlent plus du gouvernement, mais ils parlent de Paris, ils parlent des problèmes
dernière
des Parisiens.
Dernière question.
Je crois que c'est ça le
dernière
plus intéressant.
Question. Votre modèle, c'est Bertrand Delanoë ou Jacques Chirac?
Bertrand Delanoë, hein, je l'ai connu maire de Paris, je n'ai pas connu Jacques Chirac maire de Paris.
Ah, pas mal, vous avez bien zigzagué. Je précise que nous entendrons sur Inter les autres candidats avant le 9 juillet, date où vous passerez donc votre grand oral. Merci à vous et belle journée.
Merci à vous.
Merci Léa, tout à l'heure 8h20.